deuxième partie de notre échange avec Dominique Breton et Dominique Bilouin sur l'énergie citoyenne. On continue à échanger sur cette question-là. La semaine dernière, on avait parlé un petit peu de l'organisation et comment ce type de structure pouvait se monter. Là, on va aller un petit peu plus loin dans l'échange et notamment, on va parler des rapports que entretiennent ces collectifs avec le monde des entreprises privées et des collectivités territoriales. Déjà, tout d'abord, rebonjour.
Bonjour.
Je voudrais qu'on aborde cette question-là, justement, des relations entre les collectifs et le reste du monde, hein, quelque part, notamment le monde de l'entreprise privée et le monde des collectivités territoriales. Mais tout d'abord, pour un petit peu faire le lien avec l'émission de la dernière fois, vous m'avez parlé d'une association nationale qui s'appelle Énergie Partagée. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot parce que du coup, vous n'êtes pas le seul collectif citoyen de production d'énergie. C'est quelque chose qui se développe actuellement un peu partout en France. Ça représente l'énergie citoyenne en France, ça représente quelle partie de la production énergétique électrique ?
Les collectifs citoyens produisent à peu près 1% d'énergie, c'est pas grand-chose. D'énergie renouvelable, donc c'est pas grand-chose.
D'accord. Et donc, Énergie Partagée, c'est une association qui a pour objectif de développer ces collectifs ?
Alors oui, Énergie Partagée est un collectif citoyen, mais il est national. Et il soutient des structures comme Énergie Vendômoise ou Blaise-Watt. Et ils nous permettent de nous structurer plus rapidement. Ils nous apportent des connaissances qu'on n'a pas. Ils nous apportent les documents qui permettent de monter les associations, les montages financiers pour financer les projets. Et ils nous permettent d'avoir un réseau assez important et d'échanger avec d'autres collectifs citoyens sur le territoire français. Et ils peuvent nous aider, ils ont une partie importante, ils ont Énergie Partagée Investissement, qui peut nous aider à financer des projets de collectifs 100% citoyens.
D'accord. Alors la semaine dernière, on n'a pas abordé cette question, mais moi ça me paraît essentiel, c'est parce que quelque part vous êtes un collectif, vous produisez de l'énergie, mais cette énergie elle sert à la fois à la population, mais aussi elle s'inclut dans un champ beaucoup plus large, qui est la production énergétique, et on sait très bien que les investissements privés et que aussi les collectivités territoriales ont leur mot à dire et elles ont une action importante. Et un exemple très, très concret qui vous concerne directement, c'est le site donc d'Égalienne à Montoire-sur-Loire, hein, dans lequel vous avez participé au financement. Ouais. Est-ce que vous nous racontez un petit peu le processus qui vous a amené à participer à un projet qui est relativement important, puisque là on est sur un projet qui a un coût total de plus de 2 millions d'euros. C'est bien ça ?
C'est bien ça, oui.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce projet, en sachant que là, c'est un projet qui a été monté par une entreprise privée ?
Donc, c'est une longue histoire qui a été très formatrice pour nous. On a appris beaucoup. On a pris des coups aussi, mais on a appris. Et en fait, c'est une société privée qui avait un projet en cours à Montoire qui est venue nous voir pour avoir une participation citoyenne.
Alors pourquoi ils viennent vous voir du coup ?
Alors quand une société privée comme ça fait un montage financier avec un collectif citoyen, ils peuvent avoir un tarif de rachat de 3 centimes supérieur au mégawatt. Donc ça permet de gagner plus d'argent. Et ça peut permettre aussi d'avoir un projet qui soit plus rentable quand on passe devant la commission de régulation de l'énergie pour avoir le tarif de rachat.
Alors, est-ce qu'on peut, du coup, en quelques mots, présenter le projet d'Égalienne ? C'est quoi ? C'est une ferme photovoltaïque ?
Oui. Alors, oui, c'était un ancien site d'enfouissement qui est recouvert depuis quelques années, donc, que la commune a l'obligation d'entretien. Donc, on peut, sur ce terrain-là, il est perdu, en fait, un site d'enfouissement comme ça, c'est perdu, c'est recouvert, c'est perdu, on ne peut pas mettre de structure, on ne peut pas construire dessus, on ne peut pas faire de pâturage, on ne peut pas faire de culture, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment un terrain perdu et ces terrains-là permettent de produire de l'énergie. Du coup, on peut s'en servir pour produire de l'énergie parce qu'on pose sur le sol, on ne perce rien, ça c'est un gros avantage. Et ça permet à la commune d'être rémunérée pour la location du terrain et ne plus avoir l'entretien du terrain à faire.
D'accord, donc c'est très intéressant pour une commune comme Montoire.
Voilà, sans parler des taxes qu'elle va pouvoir toucher avec la production.
D'accord. Alors, et du coup, comment vous êtes... alors, c'est l'entreprise, elle a repéré ce terrain ?
Voilà.
Elle s'est dit, tiens, on va pouvoir installer un espace, une ferme photovoltaïque dessus.
Voilà.
Et elle vous a contacté pour participer au projet.
Voilà.
Alors, comment s'organise un petit peu le partenariat, on va dire, entre vous ?
Alors, comme la société, enfin, nous, un collectif citoyen, dans ces montages-là, c'est légal, c'est 40% minimum. Donc, nous, on est un collectif citoyen qui voulons la gouvernance sur les projets. Du coup, on est réaliste, on savait très bien que la société n'allait pas lâcher 51% de sa société comme ça.
Donc, et que vous n'auriez pas non plus la possibilité de décider
ouais,
tout seul.
Voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté quand même, on a demandé, on ne sait jamais. Mais du coup, après, on a passé beaucoup de temps à négocier avec eux pour avoir au moins une minorité de blocage sur certaines décisions importantes de la société, par exemple des coûts importants dans la rénovation ou des choses comme ça de la structure. Et ça a duré plusieurs mois et pendant ces quelques mois, et ben la société a été rachetée deux fois, une fois par Direct Energy et la dernière fois par Total. Direct Energy a été rachetée par Total. Du coup, on a pu discuter jusqu'à un certain moment et après, il y a eu un blanc, il n'y a eu plus trop de discussions. Donc, nous, on est parti avec beaucoup de supputations avec Total. Et on a eu une réponse un jour qui est tombée, c'est que maintenant, la négociation est terminée. Enfin, il n'y a même pas le message là, mais ce qu'on vous propose, c'est des obligations d'achat. C'est-à-dire que vous financez 40% pendant 5 ans ou 6 ans, et puis on vous redonne l'argent au bout de ces années-là. Donc on ne pouvait plus rentrer, du coup on ne rentrait plus dans la structure d'Egalienne, la société d'Egalienne.
Vous étiez juste une partie financeuse, ouais, du montage financier en fait, voilà. Vous étiez juste un client.
Caution. En fait on n'est même pas un client, on donne de l'argent, on est comme une banque. On prête notre argent pendant 5 ans en échange d'un rendement financier sur ces 5 ans.
Supérieur pour la société.
Ouais.
Et donc, du coup, dans 5 ans, vous récupérerez la même somme ou plus ? Enfin, il y aura un gain quand même pour la SS Pivert ?
Oui, on aura. C'est pas grave. Enfin, j'inverse les années entre l'obligation et puis le rendement, mais c'est 5% ou 6% de rendement sur 5 ans, 6 ans, je sais plus dans quel sens c'est. Mais oui, nous, ce qui fait que dans 5 ans. Dans 5 ans, on va récupérer notre argent. Donc, on a accepté de rentrer dans ce projet-là, alors que ce n'est pas du tout notre état d'esprit, puisque nous, on est plutôt dans un thème où ce sont les citoyens qui ont la gouvernance. Mais on avait passé tellement de temps à négocier avec eux. Donc, on a des gens dans l'association qui ont pris sur leur temps de travail, sur leur week-end, pour négocier avec cette société. Et on a eu un tel engouement sur Montoire, même les communes limitrophes, quand on faisait les réunions publiques pour expliquer comment on pouvait financer ces projets-là, il y avait un tel engouement, un tel enthousiasme positif, quoi, que nous, on s'est dit, c'est pas dans notre état d'esprit, c'est pas dans ce qu'on veut, dans notre charte, mais il y a tellement de positivité que ce serait dommage de pas rester sur ces 5 ans-là. D'autre part, si on n'y restait pas, les 40% pour financer la partie collective, elle peut être faite facilement en passant par un site de crowdfunding. Donc,
Le projet se serait fait sans vous, finalement.
Voilà. Donc, nous, on avait passé tellement de temps et les gens avaient tellement soutenu ce projet-là. Ils l'avaient financé aussi. Hein. C'est quand même les gens du territoire qui l'ont financé, qu'on s'est dit « Ok, on y va ». Du coup, on y est allé en se disant, dans 5 ans, nous, ça nous laisse le temps de préparer d'autres projets. Et dans 5 ans, on aura une manne financière pas négligeable. Et si les gens ne retirent pas leur argent de la société dans 5 ans et qu'on peut réinvestir ce capital-là sur d'autres projets, ça peut être intéressant pour rebondir plus loin, plus fort.
D'accord. Justement, on va aborder cette question de nouveaux projets. La semaine dernière, vous nous disiez que vous vouliez pas trop en parler, justement parce qu'il y avait un certain nombre de difficultés, de projets qui n'iraient pas au bout. Malgré tout, vous êtes quand même dans la projection. Vous continuez quand même à essayer d'augmenter le volume global de production d'énergie renouvelable citoyenne dans le nord du département du Loir-et-Cher.
Oui.
Pourquoi, tout simplement ?
Le but, c'est pas faire de pain. Enfin, notre but, c'est pas de faire de l'énergie, produire de l'énergie pour produire de l'énergie. On s'est mis d'accord au début de l'association qu'on fera de l'énergie pour que le territoire, à la rigueur, soit autosuffisant. On ne veut pas devenir exportateur d'énergie, ce n'est pas notre but. Donc là, on a encore beaucoup de marge, c'est pour ça qu'on continue. Et d'une part, et d'autre part, on a une société à gérer aussi, et on a pris l'argent des citoyens, qu'on gère leur propre argent. Enfin, moi, je me sens une certaine responsabilité là-dessus. Et donc, on s'est dit, faut qu'on continue à pouvoir mutualiser les risques sur d'autres projets et mutualiser la répartition des dividendes aussi. Mais le but, c'est pas de produire et d'exporter de l'énergie. Notre but, c'est l'autosuffisance.
D'accord. Et donc cette autosuffisance, vous la visez par la production d'énergie photovoltaïque en premier. Pourquoi justement cette énergie, enfin, en tout cas ce mode de production particulièrement ?
Alors le photovoltaïque, quand on monte un collectif citoyen et qu'on n'y connaît pas grand-chose, comme Dominique l'a raconté, on n'y va pas avec des compétences. Hein. Toutes les personnes qui sont avec nous n'ont aucune compétence sur ce domaine-là. Donc le photovoltaïque, c'est le plus simple à monter en montage technique. C'est le plus abordable techniquement. Et le plus rapide surtout. Donc le souci d'une association, d'un collectif citoyen comme ça, c'est la crédibilité. Donc pour acquérir une crédibilité vis-à-vis des partenaires économiques sur le territoire, c'est d'essayer de monter un projet le plus rapidement possible, pérenne. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le photovoltaïque. Ça, et puis on a eu deux opportunités importantes. C'est Valdem, la collectivité de Vendôme, qui est venue nous voir, et c'était une très grosse opportunité. Et puis donc Quadran, racheté par Total, qui a été une opportunité aussi. Et après, on n'est pas du tout fermé à d'autres énergies. Le but, c'est de créer en harmonie avec les gens du territoire de l'énergie renouvelable.
Alors, du coup, peut-être aussi pour faire le lien avec Blaise-Watt, il y a un potentiel au local, hein, au niveau de la production d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut peut-être, vous pouvez nous dire un petit peu quelles pistes vous avez déjà creusées, ou en tout cas sur lesquelles vous avez réfléchi ?
Alors, on est encore franchement au tout début de la réflexion. Hein. Donc, forcément, on a pensé photovoltaïque. Donc, on a quelques sites là, pour lesquels on va réfléchir à une possibilité.
Est-ce qu'il y a des sites un petit peu comme du côté de Montoir ou qui sont des sites perdus en fait à Blois et autour de Blois?
Oui, ça existe, oui. Oui, alors bon, c'est toujours pareil, hein, c'est difficile d'en dire plus tant que les choses ne sont pas concrétisées. On ne veut mettre personne en porte-à-faux.
Mais en tout cas, vous avez commencé peut-être déjà ce repérage, non?
Ça commence, c'est vraiment le tout début.
Il y a des opportunités qui se font. En fait, il y a une telle demande de la part des collectifs, de la région, des collectivités, pardon, de la région, des hommes politiques, quoi. Il y a une telle demande de leur part et aussi des acteurs privés que nous, là, on cherche, mais je suis sûr et certain que dans quelques semaines, on va taper à notre porte.
D'accord.
C'est ce qui est arrivé à Vendôme, c'est ce qui arrive encore. On tape à notre porte.
Qui tape à votre porte ?
On a des élus locaux qui nous proposent des bâtiments à équiper. Donc ça,
On a des élus au sein du collectif.
Ouais. Hein. Donc il y a quand même sur Blois, il y a beaucoup beaucoup d'opportunités. Et il suffit de se balader. Enfin, moi, je me promène avec ma boussole, des toitures plein sud de bâtiments de la mairie ou de l'agglomération.
Grandes surfaces.
Ouais. Il y a ce qu'il faut.
Alors du coup, juste une question un peu technique. Quelle surface, vous savez, vous à peu près, hein, quelle surface il faudrait minimum pour que le projet soit à peu près rentable?
Alors là, on rentre dans la technique.
Ouais. En fait, les projets, déjà, il faut qu'ils soient rentables. Parce qu'on ne fait pas l'énergie en perdant de l'argent. Et ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des citoyens. Donc, il faut qu'ils soient rentables. Et ensuite, plus le projet est gros, plus on produira de l'énergie avec moins d'argent, en gros. En gros, il me faut 30...
C'est une question d'économie d'échelle.
C'est une économie d'échelle. Donc, il vaut mieux produire sur un très gros projet parce qu'on va collecter assez vite de l'argent pour financer ce projet-là. Mais s'il y a des opportunités avec des projets plus petits à 100 kilowatts, faut y aller. Tout ce qui est au-dessus de 100 kilowatts, il faut monter un dossier.
Et du coup, le ratio pour obtenir 100 kW, il faut quelle surface de panneaux photovoltaïques ?
Faut plus de 400 mètres carrés, je pense. J'ai quelques notions, mais je suis pas expert non plus. Mais je crois qu'à Valdem, on fait 74 kW crête et je crois qu'on a 400 et quelques mètres carrés. Ça commence déjà à faire pas mal. Hein.
Oui, parce que c'est en surface de toiture, notamment, ça demande des gros bâtiments.
Ça commence à. Donc, tout ce qui est bâtiment industriel, par exemple, on a des industriels qui viennent nous voir. Des artisans pour savoir si on peut les équiper tout ça. Donc on voit avec eux, on discute avec eux. Sur Vendôme, c'est déjà arrivé. Il y a des projets qui sont tombés à l'eau parce que c'était mal orienté ou des choses comme ça. Mais il y a des opportunités qui viendront naturellement. Même si nous, on en cherche, il y a des opportunités qui vont arriver.
Et malgré tout, ce que vous disiez par rapport aux économies d'échelle, c'est que il faut quand même avoir des gros projets, ou en tout cas des projets d'une certaine taille, d'une certaine envergure pour que l'objectif de l'énergie citoyenne soit pérenne.
Oui, donc c'est par exemple Montoire, c'est entre 2 et 3 hectares, je crois, donc ça commence à être assez important. Sur l'agglomération, je ne sais pas s'il y a. On est en train justement de regarder s'il n'y a pas des terres qui ne sont pas arables où on pourrait mettre des panneaux, par exemple.
Et donc, du coup, d'un point de vue. Parce que. Là, vous dites qu'il y a un intérêt des collectivités territoriales à la production d'énergie citoyenne. Est-ce que pour autant, les relations que vous pouvez avoir avec elles sont justement favorables ? Et est-ce qu'il y a un terrain légal ou législatif qui vous permet d'envisager sereinement ce genre de projet
Alors, l'intérêt des élus, hein, je le disais tout à l'heure, on a des élus qui ont adhéré au collectif. Hein, donc. Alors après, j'ai pas bien compris le sens de la question.
Notamment, est-ce qu'il y a des obstacles légaux qui vous. Comment dire qui...
Le fait qu'un élu, par exemple, puisse être membre du collectif et
Non, pas du tout. C'était plus la question, point de vue plus général, c'est est-ce qu'il y aurait des choses qui vous empêcheraient d'aller au bout de certains projets, notamment d'un point de vue légal, en fait.
Point de vue légal, non.
Est-ce que la législation est favorable à ce genre de projet, tout simplement ?
Oui. Oui, quand même. Dans l'ensemble, on peut produire où on veut, comme on veut, en respectant les règles du jeu. Après, où on veut, techniquement, non. Si on veut monter un champ photovoltaïque assez puissant, très éloigné des lignes de raccordement, donc si c'est puissant, il faut des grosses lignes de raccordement. Le territoire français n'est pas tracé, il n'a pas une grille de répartition très équilibrée. Le réseau. Et donc, le raccordement d'un champ photovoltaïque assez puissant sur une ligne qui peut récupérer cette puissance-là, ça peut tuer un projet. Donc ça peut être des raccordements qui sont assez hauts, 600 000 euros pour accorder un projet, ça arrive. Et quand on investit 600 000 euros avant d'avoir payé les panneaux et tout ça, faut que ça produise beaucoup, quoi. Et ce coût-là peut tuer les projets, mais ça c'est des discussions qu'on a aussi avec certains élus, avec certains... des élus, quoi, des députés ou la région. Et on passe cette info-là. C'est-à-dire que c'est bien joli de nous demander de vous aider à faire des projets photovoltaïques ou d'énergie renouvelable en général. Mais derrière, le réseau, il n'est pas spécifiquement...
Le projet n'est pas adapté parce qu'il est lié aussi à la production actuelle qui se fait sur des gros points de production, et qui part en étoile autour de ces points.
C'est historique.
Mmh. Et donc, du coup, il faudrait revoir un peu le modèle de réseau et peut-être de le travailler de façon plus locale, plus ou en tout cas d'avoir d'autres un autre réseau, quoi.
Je pense que pour Enedis, alors ça n'engage que moi, ce que je dis là, mais pour Enedis, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des productions plus localisées qui permettent d'entretenir un réseau plus léger et moins lourd financièrement aussi en entretien. Ça me paraît assez naturel.
Et aussi peut-être plus modulable en fonction de certains pics, parce qu'on le sait, là, l'hiver arrivant, les premières chaleurs, les premiers grands froids arrivant, on voit des pics de consommation électrique importants. Mm. Peut-être que du coup, avec des petits projets plus locaux, on peut peut-être arriver à avoir un réseau qui est plus résilient, plus modulable.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis bah, là, comme on voit aujourd'hui, il fait beaucoup de soleil, mais il fait froid. Et en général, l'hiver, c'est un peu comme ça. Mais là, ça vaut le coup, quoi.
D'accord. Alors, vous avez parlé rapidement de quelques problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles majeurs que vous voyez qui pourraient vous empêcher de mener certains projets, autre que la participation de certaines entreprises qui dictent leurs lois ou le réseau qui n'est pas forcément adapté?
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que oui, à mon avis, oui, il peut y avoir des tas d'obstacles et que on ne les soupçonne pas encore. Ouais.
En fait, oui, si la région Centre, elle n'est pas réputée pour vouloir des éoliennes, par exemple.
D'accord.
Même si.
C'est une question de quoi? De paysage, c'est ça?
C'est une question de position, je pense, parce que le paysage, c'est très subjectif. J'ai discuté avec des personnes justement le samedi dernier dans le sud de Loche, des personnes qui sont en train de voir pour monter un collectif, et il y avait des gens qui étaient pour le montage d'éoliennes, enfin qui n'avaient pas de position contre spécifiquement, et d'autres avec qui j'ai discuté qui avaient des positions contre. La personne qui n'était pas contre, elle me disait, mais la question du paysage, c'est pas joli. Et dit, moi, je comprends pas tellement cet argument-là. Et je l'avais jamais entendu, cet argument-là. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il dit, je vis entre deux centrales nucléaires, Civaux et Chinon. Et quand il fait beau, je vois deux traits blancs dans le ciel. Et je pourrais dire que c'est pas joli non plus. Donc il y a ce côté-là. Il y a le côté subjectif de la beauté, tout ça. Et après, il peut y avoir des contraintes quand même pas négligeable, je pense. Faut pas être dogmatique. Je pense que il y a des éoliennes sur un projet qui fait 10 éoliennes sur plusieurs kilomètres de long. S'il y en a une ou deux qui sont à, enfin, la limite légale, c'est 500 mètres. Si elles sont juste à 550 mètres d'une maison, enlever une éolienne ou la déplacer de quelques, enfin, je sais pas si techniquement c'est possible, mais supprimer une éolienne sur 10 éoliennes pour avoir l'acceptance des citoyens, je vois pas. Des fois, j'ai certaines incompréhensions. Alors je manque peut-être d'informations, peut-être que c'est pas faisable techniquement tout ça, mais des méconnaissances. Mais je pense que c'est pas normal sur un projet éolien le faire. Alors ça c'est justement un gros frein, le faire que par des sociétés financières, parce que celles qui financent les éoliennes, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, c'est pas les citoyens. Et ben ça facilite pas l'acceptance. Moi, je veux bien d'une éolienne à côté de chez moi, mais je finance son projet. Je veux participer à sa gouvernance. Je veux avoir les dividendes. Et là, je pense que ce ne sera pas pareil.
Oui, parce que du coup, on a les contraintes de l'éolienne et on a aussi les gains et les avantages. Mmh. Et là-dessus, je pense que je vous rejoins. D'autant plus que malgré tout, en région centre, on a quand même un territoire qui est propice à la production éolienne, quand même, parce qu'on a quand même des grandes plaines.
La Beauce, oui.
Pas que la Beauce, d'ailleurs, parce qu'on voit quelques projets qui se montent dans le Cher, dans le Berry. Mmh. On a quand même un territoire qui se prête plutôt bien à la production éolienne. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres potentiels de production électrique? On parlait rapidement la semaine dernière de l'hydroélectricité.
Alors encore une fois, ça reste l'embryon défrichement de. Mais oui, quelqu'un est en train de faire le tour des moulins de la Cisse, par exemple.
D'accord.
Pour voir s'il y a une possibilité ou pas. Encore une fois, ça reste très.
Ouais, voilà. C'est que faut qu'on s'informe aussi si les débits sont suffisants sur l'année ou des choses comme ça.
D'accord. Alors, l'intérêt d'un moulin qui est équipé d'une turbine qui produit l'électricité va pas produire beaucoup d'électricité. Un moulin, est-ce que vous avez vous j'ai pas le sentiment que un moulin soit très intéressant en termes de production électrique. C'est peut-être plus un réseau, c'est peut-être une question d'échelle, peut-être. Ouais, aussi
d'où l'idée d'y réfléchir. Encore une fois, sur le plan technique, là, pour le moment, je me déclare.
En fait, l'hydraulique, c'est intéressant, mais il y a pas mal de contraintes qu'on est en train de découvrir, qu'on savait, mais qu'on découvre techniquement, comme faut des passes à poissons. Enfin, c'est des choses qui ont un certain coût. Et après, il y a l'entretien aussi des turbines qui ne sont pas négligeables. Donc, faut voir le pour, le contre, et puis, comment dire, le truc, c'est que faut que ce soit pérenne, quoi. Si c'est pas rentable, si c'est juste pour faire joli, c'est pas bien de dire ça, mais je veux dire, si c'est juste pour produire, parce qu'on veut produire de l'énergie renouvelable, personnellement, je vais pas engager l'argent des citoyens. Sur un truc qui n'est pas pérenne. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans la région. Il y a des sociétés qui commencent à se monter sur le stockage de l'énergie. Donc ça c'est une piste aussi, en plus de la sobriété énergétique, qui est assez intéressante, parce que justement on parlait des à-coups de production dus au vent ou au soleil, et ça nous intéresse aussi pas mal d'avoir des idées de développement de stockage d'énergie qui peuvent être assez importants.
Oui, parce que c'est pas tout de produire l'électricité, de la mettre sur le réseau. Il y a des fois où la distribuer et la distribuer intelligemment. Très bien. On arrive bientôt à la fin de la demi-heure. On va redonner encore une fois les quelques informations essentielles pour vous retrouver. Alors, à Énergie Vendômoise, comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Donc, vous avez le site internet Énergie Vendômoise au pluriel, que vous allez trouver. Vous allez trouver dessus toutes les informations, notre adresse mail et les dates des réunions qu'on fait tous les 15 jours le jeudi.
Et pour Blaise Watt ?
Une adresse électronique pour le moment, donc.
Qui est blaisewatt@gmail.com.
Blaisewatt, BlaisewAIS2T.
A2T. Blaisewatt.
Il n'y a pas de I.
C'est Blaisewatt. C'était un petit jeu de mots, Blaisewatt, et puis on va créer des watts, donc Blaisewatt. Voilà.
Très bien. Et quelques actualités, où est-ce qu'on peut vous retrouver rapidement, ou vous rencontrer ? Est-ce que vous avez une actualité dans les semaines et les mois qui viennent ?
Alors, pour Énergie Vendômoise, on va relancer les réunions publiques en fin d'année. On va en avoir une au 102, c'est un café. Normalement, ce sera prévu le 19 octobre. Il faut officialiser la date. Et il y aura d'autres réunions publiques. 19 décembre, excusez-moi. Merci.
19 décembre, ouais, donc... 19.
Oui, mais de toute façon, ces dates-là seront signalées sur notre site internet. C'est pour ça que ça sera au mois de décembre.
Quel intérêt de cette réunion publique
Cette réunion publique, ça va être encore. On explique aux gens ce qu'on fait. Les gens ont plein de questions de méconnaissance. C'est assez répétitif. Hein, on a toujours les mêmes questions et tout ça parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Et donc, nous, on vient expliquer ce qu'on fait. Et on vient aussi voir si ça intéresse des gens de financer. La chose qui est difficile, c'est de se mettre en relation. Donc, pour se mettre en relation, il faut aller au contact des gens et on va initier plusieurs réunions publiques. Entre la fin d'année et le début d'année prochaine.
D'accord, donc ça sera le 19 décembre au 102 à Vendôme ?
Oui, alors oui.
À quelle heure ?
J'ai pas l'heure encore, mais je vous dis la date du 19, enfin regardez plutôt le site internet Énergie Vendômoise, ce sera sûr, ce sera affiché dessus.
Ou le Facebook, je suppose.
Ou le Facebook.
Le Facebook, voilà. Donc de Énergie Vendômoise. Et pour Blaise Watt,
notre prochaine réunion de collectif, c'est le 6 décembre.
Elle est ouverte au public ?
Pour le moment, on a pas de problème, c'est ouvert à tous les gens qui veulent venir nous rejoindre. Ça
d'accord,
pas
donc
problème.
Le 6 décembre, ça
se passe à la mission locale, avenue de Vendôme.
D'accord,
et
à Blois.
C'est à 19h.
À 19h, très bien. Et moi, je vous remercie pour toutes ces informations, c'était très riche. Il y a un certain nombre de sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais j'aurai l'occasion de vous réinviter. Je suppose que dans les mois à venir, si ça bouge de votre côté, vous viendrez nous en parler à la radio.
J'espère. Quand on aura des projets concrets, oui.
Voilà, avec plaisir. Et je vous propose tout simplement de retrouver cette émission en podcast sur le site de la radio studiosf.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine et on parlera insectes et préservation de la biodiversité. D'ici là, on ne lâche rien et on continue à agir pour la chose commune.
Au revoir.
Au revoir.